Europe 1, il est 9h. Un nouveau journal, Hélène Zélani.
Réhabiliter le concept du train sanitaire, revisiter quelque chose qui a existé autrefois en médecine, c'est un objectif et ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur.
Un TGV médicalisé pour désengorger les hôpitaux sous tension. Un train part de Paris ce matin, direction le Grand Est. Il va transporter demain une vingtaine de malades. 25 ordonnances au menu du Conseil des ministres. Il y a urgence pour soutenir l'économie avec par exemple un fonds d'1 milliard pour les PME en difficulté. Muriel Pénicaud rend hommage à tous ces salariés qui vont travailler malgré les risques. La ministre du Travail était l'invitée d'Europe 1 ce matin.
Il faut réfléchir sur ce qu'on peut reporter. Est-ce que on ne doit pas reporter dans l'intérêt de tous? Je salue tous ces salariés qui vont travailler. Ils travaillent pour tous les autres. Il faut les remercier.
Plus d'1,3 milliard d'Indiens désormais en confinement. Nous appellerons notre correspondant sur place, Côme Bastin, pour savoir comment la mesure est respectée. Et puis, quand les hommes restent à la maison, les animaux s'en donnent à cœur joie. Sérénité retrouvée dans les calanques de Marseille.
On a vu beaucoup plus de dauphins. Un phénomène de sortie qui est dû à la sérénité retrouvée. Même chose pour les thons, pour des hérons qu'on voyait alors absolument plus.
Au menu après ce journal, Mathieu.
Est-ce que vous buvez plus? Est-ce que vous fumez plus? Cannabis, médicaments, écran, jeux vidéo, nourriture? On va parler des comportements addictifs avec le président de la Fédération Addiction, Jean-Michel Delisle. Et vos questions, vos témoignages, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. 9h02, soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron sera cet après-midi à Mulhouse. Il va visiter l'hôpital de campagne de l'armée, qui vient d'ailleurs d'accueillir son deuxième patient. Et il va rendre hommage au personnel soignant. Le chef de l'État veut témoigner sa solidarité à la région Grand Est, particulièrement touchée.
Situation sanitaire critique au point qu'il faut utiliser un TGV pour acheminer des patients vers des hôpitaux moins débordés. Ce matin, un train médicalisé part de la gare de l'Est à Paris, direction Mulhouse et Strasbourg. Aurélien Fleureau, il doit transporter une vingtaine de patients.
Un TGV médicalisé qui circule entre Paris et la région Grand Est, c'est déjà arrivé au mois de mai l'année dernière. Il s'agissait du tout premier exercice grandeur nature de médecine de catastrophe pour valider un nouveau concept, l'unité mobile hospitalière et ferroviaire. Une opération coordonnée par les équipes du SAMU de Paris, dont le directeur médical, le professeur Pierre Carly, expliquait l'objectif dans une vidéo mise en ligne il y a quelques mois par la PHP.
Réhabiliter le concept du train sanitaire, revisiter quelque chose qui a existé autrefois en médecine, c'est un objectif et ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur. Nous avons pris l'exemple d'un attentat terroriste, mais il peut y avoir des catastrophes technologiques, il peut y avoir des victimes d'épidémies.
Et ce sont bien des patients victimes d'une épidémie qui seront pris en charge. Ce TGV repartira jeudi matin de Strasbourg, direction cette fois les Pays de la Loire, où les 20 patients actuellement en réanimation dans des hôpitaux de la région Grand Est seront accueillis par les CHU de Nantes, d'Angers, du Mans et de La Roche-sur-Yon.
Alors que la France a passé le seuil symbolique du millier de décès, 1100, on attend la décision du gouvernement sur la durée du confinement. Hier, le comité scientifique a préconisé la prolongation pour 6 semaines au total, soit jusqu'au 28 avril. D'ici là, le gouvernement va aider notre économie à surmonter la crise. 25 ordonnances sont présentées ce matin en Conseil des ministres, notamment des mesures de soutien aux entreprises. Adrien Beck.
À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Une série de 25 ordonnances, des mesures indispensables, dit l'exécutif, pour permettre à la France de continuer à fonctionner. Priorité numéro 1, l'économie, avec un fonds d'aide d'1 milliard d'euros aux petites entreprises en difficulté. Pour les entreprises aussi, report des factures d'eau, d'électricité, dérogation sur la durée du travail et les congés payés. Et presque tous les domaines, en fait, sont concernés. Remboursement des voyages touristiques annulés, prolongation des titres de séjour de 90 jours, des mesures transitoires qui entreront en vigueur dès vendredi et prendront fin à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il fallait répondre sur tous les secteurs et vite, on ne pouvait pas se payer le luxe de 6 mois de débats parlementaires, explique un conseiller ministériel. 25 ordonnances, une première salve la plus importante, dit-on à Matignon. D'autres suivront dans les prochains jours. Il devrait y en avoir au total une quarantaine.
Et à partir d'aujourd'hui, les prêts aux entreprises garantis par l'État commencent à être proposés dans les réseaux bancaires. Ça veut dire qu'en cas de non-remboursement, c'est l'État qui prend à sa charge la majeure partie du reste du crédit.
On reste à la maison, sauf si on travaille dans des secteurs indispensables et sauf si on veut aider les agriculteurs en mal de main-d'œuvre. Hier, le ministre Didier Guillaume lançait un appel à tous les Français coincés chez eux sans travail et qui veulent se rendre utiles.
Et ce matin, invitée d'Europe 1, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a tenu à rendre hommage à tous ceux qui travaillent pour la collectivité.
Est-ce que quelqu'un raisonnablement peut penser qu'on peut se passer des soignants, de l'agroalimentaire, de l'électricité, de l'énergie, d'une eau de qualité. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers en cascade qui sont concernés. Parce que l'agroalimentaire, quand on va ramasser les asperges, là, les légumes, derrière, il faut évidemment du conditionnement, il faut des emballages, il faut des transporteurs, il faut des chauffeurs routiers. Il faut que les chauffeurs routiers, quand ils vont sur l'aire d'autoroute, ça soit nettoyé. Parce que sinon, ils ne peuvent pas faire leur pause et se laver les mains. Et ensuite, il faut qu'il y ait la grande distribution, les entrepôts, la logistique et le petit commerce alimentaire puissent fonctionner. C'est une chaîne de solidarité économique. C'est ça le service économique minimum. Ah, par contre, il y a des choses où on peut attendre. Hein. On n'est pas obligé de fabriquer plein d'automobiles là demain matin.
Muriel Pénicaud,
mais
bien
mais
sûr.
C'est dans chaque entreprise qu'il faut réfléchir sur ce qu'on peut reporter et ce qu'on ne doit pas reporter. Dans l'intérêt de tous, et je salue tous ces salariés qui vont travailler en étant protégés, et là je serai intraitable sur les protections que doivent mettre en place les entreprises. Ils travaillent pour tous les autres, il faut les remercier, ils travaillent pour tout le monde.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, au micro de Sonia Mabrouk. Elle a également annoncé que les élèves infirmiers, ils sont 9000, ces élèves seront rémunérés par l'État pour leur mobilisation aux côtés des personnels hospitaliers dans la lutte contre le coronavirus. 18 millions d'euros d'aide sur la table. Le nouveau formulaire d'attestation de déplacement est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Il limite notamment les sorties à 1 km de son domicile et pendant une heure maximum. Hier à Beauvais, un contrôle a dégénéré. Une jeune policière a été grièvement blessée à la tête par un jet de pavé. Elle est hospitalisée dans un état grave et deux suspects sont en garde à vue.
2,6 milliards de personnes, plus du tiers de la population mondiale est désormais placée en confinement avec l'Inde où la mesure vient d'entrer en vigueur pour 21 jours. Bonjour Combastin, vous êtes à Bangalore, surnommée la Silicon Valley indienne. Comment ça se passe ?
Écoutez, moi ça fait 2 ans que je vis ici et je n'ai jamais vu ça. Tout est fermé, il n'y a plus personne dans les rues en dehors des patrouilles de police et naturellement des vaches sacrées qui continuent de se balader comme si de rien n'était. Alors pour quiconque connaît l'Inde, c'est totalement hallucinant. D'habitude, c'est une ville qui grouille de gens, qui discute, qui crie, qui cuisine sur les trottoirs, qui klaxonne partout. C'est foisonnant, c'est un brouhaha permanent. Et depuis 24 heures, c'est simple, Bangalore est une ville fantôme.
Confiner 1,3 milliard de personnes pendant 3 semaines, c'est fou. Ça peut tenir selon vous ?
Alors, j'aurais jamais imaginé une situation pareille si je n'en étais le témoin depuis 24 heures. Mais dans l'ensemble, les Indiens jouent le jeu. Ils restent cloîtrés chez eux. Maintenant, combien de temps est-ce que cela peut tenir ? On sait que les 3/4 du PIB indien dépendent de l'économie informelle. Ce sont les artisans, les chauffeurs de rickshaw, les petits marchands. Et leur business est réduit à néant. Et puis, une autre réalité qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont tous les Indiens venus des campagnes qui travaillent sur les chantiers dans les villes. On leur a ordonné de rentrer dans leur village, mais il n'y a plus de bus, plus de train. Donc ils sont des dizaines, peut-être des centaines de milliers à rentrer chez eux à pied. C'est un spectacle hallucinant et pour stopper la circulation et la progression du coronavirus, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure solution.
Merci Combastin à Bangalore en Inde pour Europe 1. Ici, comme un peu partout dans le monde, le confinement a aussi des bienfaits. Nette amélioration de la qualité de l'air en région parisienne par exemple, grâce à une baisse de 60% des émissions d'oxyde d'azote. Dans le sud de la France, la nature reprend peu à peu ses droits. La faune n'est plus dérangée par les promeneurs. Nathalie Chevance, dans le parc des Calanques, les animaux sont de sortie.
Depuis quelques jours, il suffit d'observer pour se rendre compte combien la nature s'est apaisée. 3 millions de visiteurs fréquentent chaque année le parc national des Calanques, désormais désert, silencieux. Alain Mathési, président de l'association Collectif Environnement, habite à la limite de la zone interdite.
De ma terrasse, j'ai vu l'aigle de Bonelli qui était juste au-dessus et qui faisait des ronds comme ça dans le ciel. Cette observation-là, elle est quand même assez impressionnante parce qu'on sait qu'il n'y a pas tant d'aigles que ça dans le parc national. Ils tournaient comme ça, ils cherchaient sans doute une proie. Et cette observation, elle était un petit peu magique. Il y avait quelque chose d'étrange.
Avec aussi des fous de Bassan, des puffins qui restent d'habitude nichés sur les archipels du Frioul et de Rioux, désormais largement observés en groupe sur l'eau. Une nature qui reprend ses marques, Didier Réau, président du parc national des Calanques.
On a vu beaucoup plus de dauphins ces derniers jours que les autres jours à la même période de l'année. Un phénomène de groupe, de sortie qui est dû à la sérénité, à la tranquillité retrouvée. Même chose pour les thons, même chose pour des hérons qu'on voyait alors absolument plus, qui sont repassés par le parc national des Calanques.
À observer pour l'instant de loin avec des jumelles, reconnexion avec la nature pour s'évader. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis les JO de Tokyo reportés, c'est officiel. Ils se tiendront au plus tard à l'été 2021, mais toujours sous le nom de Tokyo 2020.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 9h. Et à 9h10, nous retrouvons Laurent Cabrol pour un point météo, mon cher Laurent.
Et pour le froid, qui, ça y est, ça atténue un tout petit peu, hein, mais c'est un froid assez intense encore ce matin. Guéret, Vichy, Reims, Épinal, jusqu'à moins 4, moins 5 degrés. Et puis des températures, la plupart du temps ce matin, entre moins 4 et plus 4 degrés. Vous voyez que la fourchette est quand même très étroite. Cet après-midi, cette fourchette va s'établir entre 11 et 16 degrés. Donc ça sera beaucoup plus agréable. 12 dans la capitale, 12 à Lille, 11 à Nancy par exemple, 13 à Lyon, 14 à Nantes et Paimbœuf en Loire-Atlantique, 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux. Et dans toutes ces villes, eh bien, à vos fenêtres, vous serez particulièrement bien disposés puisque le soleil sera là. C'est un soleil omniprésent sur toute la France aujourd'hui, excepté sur le bassin méditerranéen. Nous aurons des passages nuageux. Alors ce type de temps va durer demain et après-demain. Samedi, dimanche, ça va vraiment changer avec l'arrivée d'un temps plus doux et puis surtout de petites pluies dans l'Atlantique. Mais la semaine prochaine, on a peur que le froid revienne encore plus fort.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 9h11 sur Europe 1. Tiens, je vais mettre un peu de soprano. On a du soprano ? Je vais vous expliquer. Personnalité préférée des 7-14 ans selon le journal de Mickey. On l'a appris hier et je veux précisément m'adresser aux enfants. Oui, les enfants, vous qui êtes en train d'écouter Europe 1 avec vos parents, je lance cet appel. Vous avez découvert vendredi dernier les petites voix des enfants du monde entier qui racontent leur confinement à Paris, Bruxelles, Berlin, New York. Vous avez envie de participer, de poser une question à nos petites voix, d'apporter un témoignage, d'échanger. Tiens, faites passer vos enfants sur Europe 1. Là, je reparle aux parents. Vous envoyez un petit fichier sonore avec une question, un témoignage. Les petites voix à europe1.fr. C'est très simple. Les petites voix, c'est vendredi entre 9h et 9h30. 9h12, bon réveil à tous. La question des addictions en période de confinement. L'addictologue Jean-Michel Delisle est notre invité dans un instant et il répond à toutes vos questions, vos témoignages 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Bien sûr, à tout de suite.
Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Mais si vous nous rejoignez, vous faites une erreur. Parce que depuis 6h, c'est la radio ouverte, la seule matinale intégralement réalisée en télétravail avec nos journalistes, nos invités, nos chroniqueurs à distance, y compris le prochain invité, le docteur Jean-Michel Delisle, psychiatre, président de la Fédération Addiction. Bonjour Jean-Michel Delisle.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes aussi directeur du comité d'études et d'information sur la drogue et les addictions. Vous êtes situé à Bordeaux. Hein. Confiné en ce moment, Jean-Michel Delisle ?
Confiné, non, puisque comme je suis médecin, je suis amené à me déplacer, aller à mon travail pour recevoir mes patients. Ceci dit, dans la mesure du possible, effectivement, je travaille le plus possible par télétravail.
Quand c'est possible, évidemment. On va poser la question des addictions. Et c'est très large, hein, la question des addictions. J'en parlais ce matin. L'alcool, bien sûr, le tabac, mais le cannabis, médicaments, et puis les comportements addictifs d'une manière générale vis-à-vis des écrans. Beaucoup de questions sur l'alimentation, vous allez l'entendre. Mais d'abord, puisqu'on parlait spécifiquement d'alcool ce matin, écoutez ces témoignages, Sébastien et Noémie, ce sont des Nantais confinés qui se sont confiés au micro européen de Charles Guyard.
Vu qu'on est en confinement, on prend plus le temps de faire les choses. Donc on a plus le temps aussi de prendre l'apéro, on va dire.
En temps normal, on se pose la question déjà de savoir si on boit trop ou pas. Et là, clairement, on a la confirmation que oui, on a tendance à plus boire. Donc c'est inquiétant ou pas, je sais pas.
Et j'ai le message, j'ajoute, hein, de Stéphane qui est dans le Finistère, qui nous dit merci de nous informer. C'est vrai qu'on se permet de boire un peu plus en étant confiné. Jean-Michel Delisle, on a plus de temps pour l'apéro, on est bloqué à la maison, alors du coup c'est peut-être un verre ou deux de plus qu'à l'habitude. Puis il y a l'innovation, les apéros en ligne, avec les voisins, même à travers la haie. Est-ce que ce ne sont pas des années de votre travail en addictologie qui sont sapées par ce confinement ?
Oh, non, je ne crois pas. Au contraire, c'est une expérience qu'il importe de travailler, sur laquelle on doit réfléchir. On voit en vraie grandeur le lien entre le stress et la consommation de produits d'addiction, puisque généralement, on sait que tous ces produits, que ce soit l'alcool, le tabac, mais aussi les drogues, pourquoi pas le sucre et les écrans, ont des fonctions centrales en matière de recherche de détente, de recherche d'apaisement, de recherche d'évasion. Donc on comprend bien que dans un contexte où tout le monde est stressé, vit une période de crise, où on se demande quel va être son propre avenir, celui de ses proches, celui du monde même, cela puisse amener à essayer de se réguler, entre guillemets, dans un premier temps, en tout cas avec des produits. Là où les choses sont passionnantes, c'est que nous, ce que nous savons, et c'est le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que ça marche, ces produits, si c'est utilisé ponctuellement. À partir du moment où on en consomme de plus en plus et de plus en plus régulièrement, l'effet attendu va avoir tendance à s'atténuer. Et au contraire, on va être de plus en plus dans un état de malaise, de manque, qui va accroître le problème. Donc on est vraiment dans une situation où il faut tirer un peu la sonnette d'alarme, c'est-à-dire un usage ponctuel peut aider à passer un moment de convivialité. En revanche, il faut prendre garde, comme le disait la jeune femme, à ne pas dépasser les bornes, à ne pas augmenter, parce qu'à ce moment-là, l'effet bénéfique, entre guillemets, va s'atténuer. En revanche, les problèmes vont s'accroître.
On sait que ce qui est dangereux pour la santé, enfin, ce qui est entre autres dangereux pour la santé, c'est l'alcoolisation massive, ce qu'on a appelé le binge drinking. Mais là, dans ce contexte-là, ce qui vous inquiéterait plus, c'est de prendre de nouvelles habitudes ?
Oui, parce que souvent nos habitudes sont un peu régulées par notre contexte de vie. Par exemple, on consommera moins quand on est au travail, de toute évidence. Là, dans la mesure où de plus en plus de personnes sont en télétravail, qu'il n'y a plus ce regard collectif de contrôle, ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes et à leurs tensions. Ce qui fait qu'on est véritablement dans une situation à risque. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, mais qu'il faut garder le contrôle.
Valérie est en ligne avec nous, professeur. Nous sommes avec Valérie à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur Europe 1.
Moi, j'appelle parce que j'ai une addiction à la nourriture. J'ai été en obésité morbide et grâce à une sleeve, j'ai pu perdre, revenir à un poids normal. Et je faisais énormément d'activités physiques. Or là, avec le confinement, donc même si j'essaye de bouger un peu, j'ai très peur, avec la proximité des placards et du frigo, de retomber dans la nourriture.
C'est-à-dire que vous, Valérie, vous vous trouvez dans un contexte qui est différent de celui qui consommerait des drogues, peut-être. C'est que la source de votre addiction, elle est autour de vous et vous êtes coincé avec.
Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'aller la chercher très loin. Elle est juste à côté de moi. Et je peux pas, évidemment, on peut pas arrêter de se nourrir. Donc, il y a toujours quand même de l'alimentation à proximité. Et j'ai, j'ai très peur de retomber dedans. Oui. Et je voudrais savoir s'il y a des trucs, parce que en plus je vis seule, donc j'ai personne pour me contrôler.
Non, mais je sens que ça vous tracasse, préoccupe, que ça vous inquiète, docteur Jean-Michel Delisle.
Eh bien, je comprends bien ce que dit Valérie, parce qu'on est dans un cadre général, justement, où le stress augmente, ce qui a été dit tout à l'heure, où on est confiné, on perd ses routines, en plus Valérie vit seule, donc il y a moins de possibilités d'échanges directs, ce qui fait qu'à ce moment-là, cette montée de tension, de stress peut amener à rechercher un apaisement, en l'occurrence dans la nourriture ou dans du sucre. Alors, la difficulté de Valérie est évidente, c'est que ces produits-là continueront à être aisément accessibles, puisque ce sont des produits de première nécessité, l'alimentation, et d'autre part, ce sont des produits qui sont immédiatement disponibles. Donc, là, le premier conseil à donner, mais c'est un peu vrai pour toutes les personnes qui ont une addiction, c'est d'essayer de se recréer des routines obligatoires, ne pas se laisser aller une perte de repères, notamment de repères temporels, et notamment, alors surtout pas de s'interdire de manger, parce que là, ce serait la rechute assurée, mais au contraire, s'y autoriser, mais en prenant plaisir peut-être à préparer des repas, mais qu'on mange aux heures normales, sociales, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, de telle façon qu'on puisse encadrer la consommation et éviter de perdre le contrôle.
Alors Valérie, je vous garde. Restez en ligne avec nous s'il vous plaît. Je voudrais qu'on accueille Nathalie qui est dans le Rhône. Et pour être très honnête Nathalie, je ne sais pas si c'est la même question que Valérie ou pas. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour. Écoutez, je suis déjà... bonjour à tout le monde déjà. Je suis très contente d'avoir entendu Valérie parce que... La problématique de la nourriture est peu évoquée quand on parle d'addiction, du moins dans les médias, je trouve que c'est quelque chose qui est assez oublié. Et moi, si vous voulez, c'est un peu différent. Moi, j'ai un parcours de troubles alimentaires depuis une quinzaine d'années. J'ai été anorexique et boulimique. Donc là, c'est mon cas. Je suis boulimique avec des vomissements, très fréquents. Et le problème du confinement. Il aggrave mon trouble et en fait le gros problème c'est que je suis quand même obligée d'aller mâcher de la nourriture, donc si vous voulez ça rajoute de l'anxiété parce que j'ai d'autant plus la culpabilité de sortir pour aller m'acheter à manger et de me mettre en danger aussi du fait de la situation actuelle. Donc tout ça, ça rend le quotidien encore plus lourd. Comme Valérie, je vis seule.
Valérie qui est toujours en ligne avec nous. Nathalie, Valérie, le docteur Jean-Michel Delisle est à l'écoute et j'entendais ce que vous disiez auparavant. On a bousculé tous nos repères, il faut en recréer, c'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument. Et de la même manière, là, ce que disaient Valérie et Nathalie, je comprends bien, c'est qu'on est dans un contexte où, étant confiné, on ne peut plus avoir d'exercice physique régulier, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids et d'obésité. Mais d'autre part, on se sent aussi coupable quand on va acheter de la nourriture, ce que disait très bien Nathalie. Donc là, le premier conseil, là aussi, c'est cesser de culpabiliser. Des troubles des comportements alimentaires, c'est un trouble, c'est une maladie, ça échappe à votre volonté. Donc ne vous sentez pas coupable. Accepter de continuer à manger parce que c'est nécessaire, mais essayer de le faire dans un cadre régulé. Accepter aussi de lâcher prise et d'être un peu moins obnubilé par la nourriture, soit pour en manger de plus en plus, soit au contraire pour l'expulser en se faisant vomir.
Valérie, Nathalie, je vous remercie de votre appel parce que le réflexe était de parler d'alcool et de tabac, voire de drogue dure. Et en l'occurrence, il y a aussi les troubles alimentaires dans les comportements addictifs. Docteur, est-ce que les images qu'on a vues de rayons qui se vident, de papier toilette qui manque, de courses qu'il faut faire et la peur de la pénurie, est-ce que ça aggrave les comportements addictifs ?
Oui, d'une certaine manière, c'est à l'image de notre société, c'est-à-dire de recherche de consommation, de satisfaction immédiate pour prévenir des anxiétés à venir. Dans cette démesure actuelle, je crois que l'intérêt peut-être positif d'une crise telle que celle que nous traversons, c'est également s'interroger plus en profondeur sur le sens des choses, sur le sens de notre vie, pour en revenir à des réflexions plus relationnelles, écouter ses émotions, et c'est ça qui peut permettre de se distancier peut-être d'une recherche d'apaisement par la consommation de produits, y compris quand ce ne sont pas des produits addictifs comme du papier toilette, par exemple.
Valérie, Nathalie, j'avais une question, et là, c'est moi qui vous la pose. Est-ce que les chroniques qu'on peut avoir, les éléments rigolos qu'on peut raconter sur tout le monde se met à la cuisine, tout le monde poste des photos de nourriture sur les réseaux sociaux, est-ce que ça aggrave le trouble pour vous ?
Personnellement, c'est Valérie, oui. Je reconnais que c'est pareil, c'est quand il y a toutes les publicités de nourriture, enfin, dès qu'on parle nourriture, en fait, c'est une angoisse, quoi.
Nathalie ?
Moi, c'est un petit peu particulier. Je le lis pas forcément à ma problématique, je reste assez extérieure. J'ai plus l'impression que c'est un autre monde, en fait, que je peux envier, hein, parce que ça, j'envie, en fait, les comportements des gens qui n'ont pas mon problème. Donc j'entends ça un petit peu de façon lointaine, quoi.
D'accord. Merci à toutes les deux. Merci mille fois à toutes les deux, hein, pour vos témoignages ce matin, Valérie et Nathalie. Les réponses du docteur Delisle pour vous. On va accueillir Luc, qui est infirmier et qui a composé le 39-21. Bonjour Luc.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur Europe 1. Vous êtes où, Luc ?
Alors moi, je suis à Charleville-Mézières et je suis infirmier libéral, là, à domicile.
D'accord. Votre question pour le docteur Delisle ?
J'en ai quelques-unes, je vais vite les résumer. La première, c'est qu'avec le confinement, on risque d'avoir des sevrages alcooliques qui vont se faire de façon totalement inopinée et dangereuse. Donc je voudrais rappeler l'importance pour les gens qui consomment de l'alcool et qui ne souhaitent pas arrêter, qu'ils conservent la possibilité d'en consommer. Et je pense particulièrement, par exemple, au SDF, qu'on va devoir accueillir dans des lieux adaptés, qui sont des foyers, et il faut que dans ces foyers, ils puissent continuer à avoir accès à l'alcool, ce qui permettra d'abord qu'ils restent dans le foyer, et d'autre part qu'il n'ait pas de syndrome de sevrage aigu. C'est un suivi qui doit être fait. Je voudrais aussi rappeler qu'il va y avoir sans doute des manques et d'héroïne et de cocaïne et d'autres substituts, enfin d'autres produits en ville. Donc il faudrait que, peut-être à titre obligatoire, mais ça c'est peut-être un vieux rêve, on puisse permettre aux médecins généralistes de prescrire au moins de la méthadone basse-œil pour qu'ils puissent passer le cap et qu'ils puissent aller aussi chercher du matériel à la pharmacie d'injection. Moi, le carburant de ma fourmi de matériel, j'amène du matériel chez les patients, mais ça doit pas être partout pareil.
Alors Luc, c'est sur Europe 1 que l'infirmier libéral et le docteur Delisle, président de la Fédération Addiction, peuvent échanger. Docteur Delisle.
Eh bien, je salue Luc, cher collègue, également sur le front là actuellement. Alors effectivement, l'angoisse centrale de toute personne dépendante, c'est de manquer d'approvisionnement. Et on sait que l'angoisse dans ce domaine augmente le craving, le besoin irrépressible de consommer, et du coup entretient évidemment l'addiction. Ce qui fait qu'une recommandation vraiment générale, centrale, absolue, c'est d'approvisionner les personnes dépendantes en produits de dépendance. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est ainsi qu'on pourra le mieux les accompagner. Alors c'est particulièrement vrai pour l'alcool, puisque l'alcool, le sevrage alcoolique, comme vous le disiez, est également dangereux pour la santé, très dangereux même. Ce qui fait qu'il faut pouvoir assurer l'approvisionnement en alcool quand les gens se débrouillent, mais également, et je suis d'accord avec Luc, c'est une proposition qu'on a faite d'ailleurs au titre de la Fédération Addiction. Dans tous les foyers qui reçoivent les SDF qui sont en voie de confinement dans des centres de desserrement, il faut également pouvoir approvisionner ces personnes de manière raisonnable, évidemment, en alcool, de telle façon à faire baisser leur angoisse du manque, ce qui permet à ce moment-là de travailler avec eux sur des objectifs de diminution des consommations. Alors, on est exactement dans la même logique par rapport aux drogues, hein, héroïne, cocaïne, etc., sauf que là, évidemment, on ne va pas les prescrire. En revanche, ce qu'on va pouvoir prescrire, ce sont des traitements de substitution aux opiacés. Et là aussi, au titre de la Fédération Addiction, on a obtenu du ministère, et donc je peux rassurer Luc, un renouvellement automatique de toutes nos prescriptions de traitements de substitution par les pharmaciens eux-mêmes, sans nouvelle ordonnance de médecin, au cas où nous serions empêchés de le faire pour des raisons diverses. Donc les choses avancent de ce côté-là plutôt bien, et c'est pour ça que nous avions envisagé de réagir un peu à la décision du préfet de l'Aisne hier, là, qui envisageait l'arrêt total de l'alcool. On comprenait bien ses motivations, hein, c'était pour réduire les violences familiales. Néanmoins, dans ce domaine, ce remède proposé, la prohibition totale sur un département aurait sans doute été pire que le mal.
Pire que le mal, docteur Delisle. Merci beaucoup. Alors je remercie Luc, infirmier, qui était en ligne avec nous et qui a eu ce réflexe 39-21. Docteur Jean-Michel Delisle, merci beaucoup. Merci pour nos auditeurs, psychiatre, président de la Fédération Addiction et directeur du comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions à Bordeaux. Merci Jean-Michel Delisle d'avoir répondu à nos auditeurs. C'est ainsi que ça se passe le matin, tout simplement. Il est 9h27, votre matinale est prolongée, vous le savez. Vous allez dans un instant retrouver Philippe Vandel pour Culture Média, bien sûr, de 9h30 à 11h. Sachez-le. Mais je voudrais aussi attirer votre attention, puisqu'on est à vos côtés dans ce contexte si particulier. Ne manquez pas La France Bouge. De midi à 14h, midi, un grand journal consacré à la lutte contre le coronavirus, bien sûr. Et puis de 13h à 14h, une émission spéciale aujourd'hui avec Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneau, toute l'équipe de La France Bouge. Émission consacrée aux associations qui alertent sur le confinement et les violences domestiques. Par ailleurs, notre baromètre sur le moral est toujours en ligne sur europe1.fr. Ne manquez pas La France Bouge. Moi, je vais vous retrouver demain matin à 6h. D'ici là, le monde aura changé, vous le savez. On va vous le raconter. Europe 1.